4 heures à Paris, 3 heures en temps universel.
Antoine Galen.
Volodymyr Zelensky appelle les États-Unis à prendre des mesures fortes si la Russie n'accepte pas la trêve de 30 jours. Pas de réponse de Vladimir Poutine à cette proposition américaine. Les négociateurs de l'administration Trump sont en route pour le convaincre. Au Burkina Faso, une nouvelle tuerie sur des civils par les forces militaires burkinabées. Cela s'est passé dans l'ouest du pays, nous y reviendrons. Dans ce journal également, le transfert de Rodrigo Duterte à la Cour pénale internationale. Un signal fort, selon Amnesty International France, l'ex-président philippin est suspecté de crimes contre l'humanité. Et puis, clap de fin, Northvolt, le pionnier européen de la batterie électrique, a fait faillite. Il devait concurrencer les entreprises asiatiques. Une trêve de 30 jours entre Kiev et Moscou, c'est la proposition de Washington. L'Ukraine a dit oui, pas la Russie. Alors, quelle sera la réaction de Vladimir Poutine? Question sans réponse. En tout cas, Volodymyr Zelensky n'affiche pas l'optimisme. Il l'a dit au cours d'une conférence de presse.
Aucun d'entre nous ne fait confiance aux Russes. Nous sommes déjà passés par là, mais nous ne jouerons pas avec le narratif qu'ils propagent dans le monde entier, consistant à dire que nous ne voulons pas arrêter la guerre. Je suis très sérieux, il est important pour moi de mettre fin à la guerre. Je veux que le président des États-Unis le constate. Nous n'avons rien déclenché. Ce sont eux qui ont déclenché la guerre. Les décisions d'hier le démontrent. Nous voulons mettre fin à cette guerre, nous voulons la paix. Nous devons tous nous concentrer sur les premières étapes. Il faut un cessez-le-feu. Sommes-nous prêts à un cessez-le-feu? Nous avons répondu oui. La question est de savoir si la partie russe y sera prête. La deuxième question est de savoir si nos partenaires sont prêts à une surveillance technique. C'est un aspect essentiel.
Et les négociateurs américains sont en route pour convaincre Vladimir Poutine, le président russe qui s'est rendu sur le front à Koursk pour voir ses troupes. Moscou a d'ailleurs revendiqué la prise de 5 localités à Koursk et dit avoir fait 430 prisonniers ukrainiens. La trêve entre l'Ukraine et la Russie, dossier brûlant du G7 qui se tient ce mercredi au Québec. C'est aussi le cas des droits de douane, car les 25% de droits de douane des États-Unis sur l'acier et l'aluminium venant du monde entier entrent en vigueur. Le Canada a décidé de répliquer en annonçant à son tour des droits de douane de représailles sur certains produits américains. La Commission européenne a aussi fait savoir qu'elle allait taxer une série de produits américains, des bateaux au bourbon en passant par les motos, et ce à partir du 1er avril. Une réplique forte mais proportionnée, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La Chine, premier producteur d'acier au monde, promet une riposte musclée. L'Angola annonce ce mercredi dans un communiqué de la présidence que des négociations de paix directes auront lieu mardi 18 mars à Luanda entre les délégations de la République démocratique du Congo et du M23. Les présidents congolais et angolais se sont rencontrés à Luanda ce mardi. La présidence congolaise dit avoir reçu l'invitation mais ne confirme pas sa participation. Direction le Burkina Faso, nouvelle scène de massacre sur des civils en début de semaine dans l'ouest du pays entre Bobo Dioulassou et Nouma. Plusieurs villages ont été razziés par les forces militaires burkinabées. Les précisions de Frédéric Gard.
Les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont parfaitement abominables. Des hommes armés enjambent des dizaines de corps, soit ligotés, soit abattus sans autre forme de procès. Couché à même le sol contre un de ses parents, on aperçoit un bébé de quelques mois qui semble hurler à gorge déployée, la bouche dans la latérite. Pour ajouter à ce macabre spectacle, une autre vidéo montre un triporteur chargé de dizaines de corps, morts ou vivants, difficile à dire, un tas d'humains sur lequel s'assoient sans le moindre respect deux membres des VDP plaisantant avec leurs camarades. Ces scènes se sont passées entre lundi et mardi dans différents villages de la zone de Solenzo et elles se poursuivent encore selon certains témoignages que nous avons recueillis. La version véhiculée par les supporters de la junte burkinabé tend à justifier ces razzias contre des voleurs de bétail et des complices de terroristes que trois bataillons d'intervention rapide auraient neutralisés avant de récupérer le cheptel. Une autre version, plus officieuse, accrédite plutôt la thèse d'expédition punitive contre la communauté Peul, suspectée d'être de mèche avec les terroristes qui sévissent au Burkina Faso.
Le Soudan du Sud aux portes de la guerre, c'est l'alerte lancée par l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement qui regroupe 7 pays de l'Afrique de l'Est. Depuis son indépendance du Soudan en 2011, le pays est en proie à des violences qui l'empêchent de se remettre de la guerre civile qui a opposé le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar. Un conflit qui a fait près de 400 000 morts et 4 millions de déplacés entre 2013 et 2018. Ces dernières semaines, l'accord de paix a été menacé par de nouveaux affrontements dans le nord-est du pays. Direction la Syrie, dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 1383 civils tués depuis jeudi dernier par les forces de sécurité syriennes et ses alliés dans la région de Latakié, bastion alaouite du président déchu Bachar al-Assad. La France n'acceptera pas de nouvelles levées de sanctions contre la Syrie si les exactions restent impunies, et c'est ce qu'indique le ministre délégué chargé de la francophonie. Rodrigo Duterte, devant la Cour pénale internationale, l'ancien président philippin a été arrêté à Manille suite à un mandat de la CPI pour des crimes contre l'humanité. Et ce, lors de sa guerre contre la drogue lorsqu'il était au pouvoir entre 2016 et 2022. C'est le premier chef, ex-chef d'État asiatique à être inculpé par la Cour pénale internationale. Pour Aymeric Halluin, chargé de plaidoyer à Amnesty International France, c'est un signal très fort.
C'est un événement inédit et qui en soi, en lui-même, peut paraître banal, mais qui ne l'est pas du tout dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui. On a aujourd'hui une justice pénale internationale qui est sans cesse remise en cause. Les États qui ont conçu cette Cour pénale internationale ne cessent de la critiquer, de la remettre en cause. Et là, pourtant, on le voit, quand les États sont de bonne volonté, ça fonctionne. C'est un formidable message pour le fonctionnement de la justice pénale internationale. C'est un message formidable pour les victimes, qui sont souvent les parents pauvres, qui sont souvent oubliés. Non seulement elles ont perdu des proches, mais en plus on leur interdit l'accès à la justice parce que les plus hauts responsables y échappent. Et c'est le principe de la CPI que de poursuivre les plus hauts responsables. Donc le message qui est envoyé, regardez, là concrètement il y a les Philippines, mais demain ça peut être éventuellement la Russie, dans le cadre de la guerre en Ukraine. Donc c'est un signal important envoyé à tous les plus hauts responsables. Donc il faut faire confiance et surtout faire confiance au caractère universel de cette justice.
Aymeric Halluin, chargé de plaidoyer à Amnesty International France, des propos recueillis par Anne Verdaguer. Le Groenland en quête d'indépendance, et ce après la victoire surprise du parti de centre-droit aux élections législatives. Le chef de file Jens Fredrik Nielsen doit maintenant négocier avec les autres partis pour former une coalition. L'objectif, déterminer la marche vers l'indépendance pour contrer les appétits de Donald Trump sur ce territoire autonome danois. Le président américain Donald Trump avait déclaré que les États-Unis obtiendraient le Groenland d'une manière ou d'une autre. L'actualité économique. À présent, coupure de courant pour Northvolt, pionnier des batteries électriques en Europe. Plombé par ses dettes, le fabricant suédois a déposé le bilan, faute de trouver des financements nécessaires pour sa survie. Un coup dur pour les espoirs européens visant à concurrencer les entreprises asiatiques. Agnieszka Kumor.
Face à la déferlante des fabricants chinois de batteries, l'Europe est clairement à la traîne. Elle ne représente que 3% de la production mondiale de batteries. Si Northvolt a ouvert la voie, qui donc pour lui succéder? En 2020, Stellantis et Total Energy ont créé Automotive Cells Company, ACC, qui a connu une ascension fulgurante. En 2023, le fabricant a ouvert sa première gigafactory dans le nord de la France et envisageait pas moins de 9 blocs de production répartis entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Un investissement total de plus de 7 milliards d'euros. Mais depuis, les projets allemands et italiens ont été gelés. Face au ralentissement du marché de l'automobile électrique, ACC a été contraint de réduire la voilure. Un plan de départ volontaire pour une partie du personnel a été acté. Dans ce contexte, la Commission européenne a présenté la semaine dernière un plan d'action à moyen terme, avec notamment des subventions directes aux fabricants européens.
Direction les étoiles, dans la nuit de jeudi à vendredi aura lieu une éclipse totale. Un spectacle céleste peu fréquent, elle sera visible dans sa totalité depuis le continent américain, une grande partie des océans Pacifique et Atlantique, ainsi qu'à l'extrême ouest de l'Europe et de l'Afrique. Ce phénomène se produit environ 2 fois par an. Et puis du football avant de fermer ce journal, soirée de Ligue des Champions, 8e de finale retour. Le Real Madrid s'est fait peur mais a gagné au tir au but contre l'Atlético Madrid. C'est le défenseur Antonio Rudiger qui a délivré les Madrilènes en inscrivant le dernier but, 4 à 2 au total. Déception pour Lille qui s'effondre face à Dortmund, défaite 2 à 1. Les Allemands sont qualifiés.